La faiblesse de sa majesté est très grande et ses forces déclinent de plus en plus. Depuis hier, les médecins sont très inquiets de l'état de son pouls, quoique un peu moins depuis cette nuit. D'ici à 2 jours, nous verrons bien si ses forces reviennent, car après les 5 diarrhées qu'elle a eues aujourd'hui, elle se sentira peut-être mieux, sinon nous aurons du souci. Lettre de Luis Méndez Quijada, majordome de Charles Quint.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En cet automne 1555, Charles Quint est vieilli. Malade, fatigué, épuisé par près de 40 ans de pouvoir, cet homme qui est sans doute le plus puissant prince de l'Occident chrétien souhaite se retirer. Il est roi d'Espagne depuis 1516. Il est empereur du Saint-Empire germanique depuis 1519. Prince de Milan, roi de Naples, il est également maître des Pays-Bas et de la Franche-Comté, sans compter que ces hommes, ces conquistadores, sont en train de conquérir de l'autre côté de l'Atlantique un empire sur lequel le soleil ne va jamais se coucher. Mais l'empereur est effectivement usé par le pouvoir. Ses mains sont tordues par les rhumatismes. Il a la goutte. Il fait plus que son âge, qui est pourtant déjà un âge avancé, car au XVIe siècle, à 55 ans, on est un homme qui touche à la vieillesse. À partir du mois d'octobre 1555, il abandonne progressivement, un à un, tous ses pouvoirs. C'est un dépouillement régulier, méthodique, fait avec le scrupule d'un bon fonctionnaire et un sang-froid tempéré de sentiments. Il donne la couronne d'Espagne à son fils Philippe, le futur Philippe II, et confie le Saint-Empire à son frère Ferdinand. Son but, c'est se retirer en Espagne, s'ensevelir en Espagne, comme il le dit lui-même. Il fait ses adieux à tous ses proches depuis Bruxelles et il se dirige vers le port de Flessingue où, le 15 septembre 1556, il s'embarque à bord d'un bateau appelé l'Espiritu Santo. Après 11 jours de navigation, il atteint le port de Laredo, qui se trouve sur la côte atlantique de l'Espagne, près de Santander. Il y est accueilli avec, évidemment, les honneurs dus à son rang. Puis, le 13 octobre, le roi d'Espagne entre dans Burgos illuminé, au son des cloches, où il est reçu par les notables de la ville. Il va se reposer un peu dans cette ville de Burgos où la cathédrale joue un tédéum. 3 jours plus tard, le 16 octobre, il se remet en route. Il atteint Valladolid le 21 octobre. Là, dans cette capitale du royaume, il reçoit les honneurs d'un empereur roi. Écoutons le témoignage qui nous est fait à ce sujet. Les grands, qui attendaient ici Sa Majesté, allèrent à sa rencontre pour lui baiser les pieds. Le connétable, le comte de Melavente, le marquis d'Astorga, l'amiral de Castille, le duc de Nagueira, le duc de Cessa et d'autres, ainsi que les prélats qui se trouvaient là, et le corrigidor avec tout le corps de la ville. Sa Majesté fut reçue dans une très grande allégresse. Le roi séjourna jusqu'au 4 novembre à Valladolid, puis il décida de reprendre la route. Son but ultime se trouvait dans la province d'Estrémadure, le couvent de Yuste, un couvent fondé au XIVe siècle avec une communauté d'une 50aine de moines. Il voulait s'y retirer, loin de tout, loin des bruits de la cour, loin des soucis et des fureurs du pouvoir, en attendant pour se préparer à la mort. En fait, quand il arrive à proximité du monastère, la villa qui, attenante au monastère, doit l'accueillir, n'est pas tout à fait prête. Aussi, le 14 novembre, il se rend au château de Randilla, qui appartient au comte d'Oropesa, où là, il va être reçu pendant 3 mois. Il y fera quelques promenades, il y recevra surtout le père François Borgia, un futur saint, qui le visitera à 3 reprises en décembre 1556. Puis, le jour tant attendu arrive. Le 3 février 1557, l'empereur quitte Randilla après avoir pris congé du plus grand nombre de ses serviteurs et ne garde auprès de lui que 8 personnes, des hommes de confiance qui vont le servir jusqu'à la fin de ses jours. Il est accompagné aussi de quelques dizaines de soldats qui l'escortent jusqu'au parvis de l'église du monastère. Là, la communauté est sortie pour accueillir le souverain. Tous viennent embrasser la main du vieux roi. Quant à ces soldats, de manière très symbolique, ils brisent les lances afin de montrer que leur service au service de Sa Majesté est ainsi terminé. Charles Quint va donc être, si ce n'est coupé du monde, mais vivre désormais en retraite pour se préparer au grand départ. Fait-il dans ce monastère de Yuste? Il lit, il prie beaucoup. Le matin, à son lever, il reçoit son confesseur, puis son barbier qui lui entretient la barbe, qui le lave quelque peu. Ensuite, il va entendre la messe. Sa Majesté profite également des repas qui lui conviennent fort bien, souvent à base de poissons, mais les poissons, il en raffole. L'été 1558 est difficile. Il fait chaud et le souverain commence à sentir la fatigue lui peser de plus en plus. À la mi-août, il demande même à ce que l'on fasse une répétition de ses funérailles. Il pénètre donc dans l'église des moines, assiste à la vigile des morts, à une messe de requiem, et lui-même s'est installé dans un cercueil qu'il accueillera le jour de son décès. À la fin du mois d'août, sa santé s'altère gravement. Il est saisi de frissons, il a atteint de douleurs de plus en plus fortes, il a de plus en plus soif, et il ne va plus quitter son lit à partir du 30 août. Là, il va recevoir ses derniers proches, ceux qu'il avait servi pendant des années, et le 19 septembre, il reçoit l'extrême onction, en pleine connaissance. Le lendemain, Charles Quint se fait lire la Passion selon l'évangile de Saint-Luc, puis ferme les yeux et prie un long moment. L'archevêque de Tolède, averti de l'état de santé du souverain, arrive à Yuste. Monseigneur Carranza s'entretient avec le souverain. Lui montrant le crucifix, le primat d'Espagne lui dit: voilà ce qui répond pour tous. Il n'y a plus de péché, tout est pardonné. Ces paroles ont d'ailleurs été par la suite reprochées au cardinal, en estimant que finalement il aurait dû entendre en confession à ce moment-là Charles Quint. Maintenant, la fin approche. Lucide, Charles se fait remettre le crucifix de sa femme Isabelle, femme qu'il avait sincèrement aimée. Puis il demande la lecture d'un psaume et d'une prière, et ordonne d'allumer des cierges bénis tout autour de son lit. Puis il attend la fin. Il prend un cierge de sa main droite, que lui soutient Kérida, le fidèle majordome, et murmure « Il est temps ». Puis un soupir où il dit « Jésus », mot et nom que tout le monde entend. Un silence, puis la voix de son médecin, Matisse, s'élève « Domine iam moritur ». Celui qui avait été le plus puissant souverain de l'Occident chrétien au XVIe siècle vient rendre son âme à Dieu. La dépouille fut installée dans le cercueil qu'il avait lui-même occupé lors de la répétition, scène extraordinaire, tout à fait digne du XVIe siècle. Et les moines vont placer le cercueil dans la crypte. Elle dit, le cercueil restera là pendant 14 ans, jusqu'au mois de février 1572, date à laquelle son fils Philippe II le fera transporter à l'Escorial. Désormais, Charles Quint se trouve dans la crypte royale de l'Escorial avec l'ensemble des rois d'Espagne.